n'oublions pas que tout ça se passe dans un cycle financier.
Oui, on va échapper à la récession.
Moi, je souhaite que la politique monétaire soit un amortisseur.
Quand on regarde la dynamique du crédit, quand on regarde le prix de l'immobilier.
L'inflation est trop élevée aujourd'hui en France, comme en Europe d'ailleurs. Je crois qu'il faut le dire très clairement.
Et avoir une vue sur l'Europe, c'est notamment avoir une vue sur la relation du couple franco-allemand. Comment la qualifier aujourd'hui ?
Un projet européen dont il faut bien se rappeler que c'était un projet de paix et qu'on doit le servir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre nouvel épisode de notre Accuracy Eco-Podcast. Je suis David Chollet, associé d'Accuracy, et à mes côtés, Hervé Gouletker, notre senior economic advisor. Bonjour Hervé.
Bonjour David.
Hervé, commençons le podcast par un diagnostic conjoncturel qui ne paraît pas simple lorsqu'on regarde les différents indicateurs plutôt contrastés.
Oui, c'est pas simple. On aimerait que ça soit une histoire heureuse. Alors, on peut l'appeler boucle d'or, on peut l'appeler atterrissage en douceur. Mais en fait, il y a beaucoup de questionnements à tous les étages. Si on commence par l'activité, la façon de prendre le pouls de l'activité, c'est soit regarder les statistiques économiques, hein, ce qu'on appelle les données en dur, soit regarder les enquêtes, ce qu'on appelle les données molles. Et en fait, elles ne sont pas tout à fait alignées. Si on regarde les données en dur, elles sont plutôt meilleures que les données molles. Alors, jusqu'à maintenant, les données dures ont sans doute plus raison que les données molles, mais on n'est pas sûr qu'il faille extrapoler cette observation. Bref, si on regarde les données dures, on a envie de dire que on a devant nous un rythme de croissance aux États-Unis autour de 1,5% l'an. C'est pas très élevé, mais au moins c'est honorable. Un peu moins en Europe, autour de 1%. Et puis la Chine, qui est un monde à part, on aurait 4%. C'est juste considéré comme médiocre, mais on évite le pire. Par contre, si on regardait les données molles, par exemple les enquêtes auprès des directeurs d'achat, on a l'impression qu'on serait plutôt autour de croissance zéro aux États-Unis en Europe, voire en dessous de zéro.
Et que dit l'inflation dans ce contexte ?
Alors, sur l'inflation, bon, on voit bien qu'on a un ralentissement partout. Alors, il y va pour beaucoup de l'énergie, des produits alimentaires, il y va aussi des autres marchandises. Mais le point à aujourd'hui, c'est au-delà de l'observation, est-ce qu'on doit extrapoler la poursuite du ralentissement et est-ce que l'on doit considérer que le retour vers la barre des 2% est acquis ? Je dirais que les marchés de capitaux ont plutôt fait leur choix. Oui, c'est quasiment acquis. Mais si on regarde simplement là où on en est aujourd'hui, du côté des matières premières, du côté du transport par bateau, eh bien, il y a des risques de tension. Elles sont déjà observables. La mer Rouge, le canal de Suez, la mer Noire, c'est compliqué aussi. Bref, on pourrait réavoir des tensions. Et puis, de façon plus structurelle, eh bien, le marché de l'emploi reste tendu. Qu'est-ce que ça veut dire sur les salaires? En sachant qu'en plus, la productivité reste une question. Va-t-elle s'améliorer ou pas? Bref, sur l'inflation, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis à terre, ça peut être un peu dangereux.
Alors justement, qu'attendre de la politique monétaire?
Alors, la politique monétaire, on voit bien qu'il y a des anticipations très fortes aujourd'hui, un peu en harmonie avec ce qu'on vient de dire sur la dynamique des prix. Il y a une conviction que on va avoir une détente des taux monétaires à venir très vite, peut-être dès la fin de l'hiver, et qu'on aurait aux États-Unis en Europe 5 baisses de taux directeurs de 25 centimes d'ici à la fin de l'année. Donc c'est quand même une croyance des marchés qui est forte. Ce que l'on peut dire en ayant pris tous ces éléments de réserve sur l'activité, sur l'inflation, c'est que oui, tant aux États-Unis qu'en Europe, le point haut est atteint en matière de taux directeurs, qu'il y a sans doute une volonté de part et d'autre d'entamer la baisse des taux d'intérêt à court terme cette année. Mon petit doigt aurait tendance à me dire que ça viendra plus tard qu'attendu et que l'ampleur des baisses sera moins forte que ce que l'on peut lire aujourd'hui dans les prix de marché.
Et alors, on parle du court terme? Il faut aussi regarder à moyen terme. D'un point de vue plus structurel, il y a toujours des sujets de transformation de fond à mener. Quels sont-ils? Quels sont ces sujets? Et que peut-on en dire, Hervé?
Oui, la conjoncture, pour bien la saisir, il faut la prendre dans les transformations structurelles absolument nécessaires et qui commencent à se mettre en place. Il y en a trois principales et en fait, on ne peut pas dire que le chemin soit très bien balisé. La première chose, c'est évidemment la transition énergétique. Il faut décarboner nos économies. Alors, ça va coûter beaucoup d'argent. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faudrait dépenser l'équivalent de 3% du produit intérieur brut sur plusieurs années pour mener cela. Donc, comment on va financer cela? Quelles sont les transformations que cela va opérer? Certains secteurs vont être gagnants, d'autres vont être perdants, avec les implications sur l'emploi. On sait qu'on doit aller dans cette direction, on n'est pas balisé parfaitement aujourd'hui. Le deuxième point, c'est on parle beaucoup de réindustrialisation, c'est pour partie en harmonie avec le point sur la transition énergétique. Mais là encore, on voit bien qu'on a envie de remettre un secteur manufacturier plus en avant dans la dynamique de nos économies, avec les implications sur l'emploi, les implications sur le revenu, évidemment les implications sur la productivité. Il y a du volontarisme, mais la déclinaison de ce volontarisme, elle n'est pas très claire aujourd'hui. Puis, dans ce monde plus compliqué, avec les tensions internationales que l'on connaît, on voit bien que la géographie des échanges, ce qu'on appelle la géoéconomie, est en train de changer. C'est tout à fait visible dans les échanges entre les États-Unis et la Chine. Du côté de l'Europe, c'est moins clair, peut-être parce que c'est moins simple. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelles vont être les implications, une fois encore, sur les chaînes de valeur? Et on sait que les chaînes de valeur, c'est une vraie question. La crise de la Covid nous l'a montré. Bref, on a des évolutions conjoncturelles qui se dessinent pas très bien dans un environnement structurel qui est en train de changer, d'être rebalisé. Et on voit bien qu'il y a un effet d'écho entre l'un et l'autre qui ne participe pas de la clarté.
Clairement. Donc trois grands thèmes, transition énergétique, réindustrialisation, nouvelles étapes de processus de mondialisation. Finalement, ces transformations vont amener à des prises de décisions politiques fortes. Hervé, peut-on regarder dans ce contexte économie où économie et politique sont mêlées, les exemples chinois et américains?
Oui, je pense que c'est vraiment important parce que les transformations viendront des initiatives politiques prises et elles auront des implications sur la dynamique de la conjoncture. Alors, en Chine, on sait bien qu'en politique internationale, c'est compliqué. Il y a les États-Unis. On sait bien qu'en politique intérieure, c'est compliqué aussi. La croissance a ralenti, la situation sur le marché de l'emploi est moins bonne et donc les gens sont moins contents. Et donc, on voit bien qu'il y a une réponse politique qui est apportée. Alors aujourd'hui, elle prend le titre de développement de haute qualité. Alors on aime bien les slogans en Chine, ça fait très longtemps qu'on aime bien les slogans. L'idée en fait, c'est la soutenabilité, c'est le moyen terme et c'est une meilleure allocation des ressources. C'est ça ce qu'il y a derrière ce slogan de développement de haute qualité. En fait, c'est un changement de modèle assez important que l'on propose. Il faudrait passer du modèle investissement, immobilier, exportation vers un nouveau modèle demande intérieure, manufacturier et la décarbonation. Mais on voit bien que ce modèle est déjà partiellement en place. C'est le fort développement des batteries, des panneaux solaires, des voitures électriques. Mais on voit qu'il est un peu en contradiction avec l'idée de plus d'autonomie de la Chine. Parce que, en fait, pour être en pointe sur tous ces secteurs, eh bien, il y a un besoin d'exporter. Les exportations sur ces trois plans ont beaucoup, beaucoup monté. Et ça ravive les tensions avec le reste du monde. Donc, oui, il y a des changements politiques, économique, mais en fait, rester sur la ligne de crête n'est pas très facile.
Alors, l'autre côté, c'est aussi les États-Unis. Évidemment, l'actualité, c'est l'élection présidentielle sur 2024. Que peux-tu dire, Hervé?
Oui, alors c'est un lien politique-économique peut-être moins structurel, plus conjoncturel qu'en Chine, mais il est très important. Bon, la campagne a commencé. On voit bien que du côté républicain, Donald Trump fait la course en tête, mais au final, on va avoir un match Biden-Trump. Ce qu'il faut dire, c'est que politiquement, ce duel est plutôt rejeté par la population qui nous dit aujourd'hui, à hauteur de 50%, les citoyens américains se reconnaissent plus comme indépendants que comme alignés sur un parti, soit le démocrate, soit le républicain. Et donc, ça veut dire que cette insatisfaction peut créer des surprises. Est-ce qu'on va voir apparaître un candidat indépendant qui ferait un gros score? au point de troubler les résultats de l'élection, peut-être. Mais pour revenir à l'économie, en fait, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête en matière de chiffres, c'est que si on prend l'histoire politique depuis la Deuxième Guerre mondiale, si on a une récession dans l'année de l'élection, la probabilité de succès du locataire de la Maison-Blanche, Biden aujourd'hui, est autour de 30%. S'il n'y a pas de récession, cette probabilité atteint presque les 80%. Donc oui, il y a la politique, mais l'économie pourrait peser aussi assez lourd dans les élections américaines.
Merci Hervé. Nous verrons donc si, comme à son habitude, l'histoire se répète. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à commenter cet épisode sur notre page LinkedIn Accuracy.
N'oublions pas que tout ça se passe dans un cycle financier.
Oui, on va échapper à la récession.
Moi, je souhaite que la politique monétaire soit un amortisseur.
Quand on regarde la dynamique du crédit, quand on regarde le prix de l'immobilier.
L'inflation est trop élevée aujourd'hui en France, comme en Europe d'ailleurs. Je crois qu'il faut le dire très clairement.
Et avoir une vue sur l'Europe, c'est notamment avoir une vue sur la relation du couple franco-allemand. Comment la qualifier aujourd'hui ?
Un projet européen dont il faut bien se rappeler que c'était un projet de paix et qu'on doit le servir.